おかしいおかしい。
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette tribune de la presse. Poursuite des travaux de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement dans les Kikivu. Commémoration du 7e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Autre commémoration du 47e anniversaire de l'assassinat du premier ministre de la RDC, Emery Patrice Lumumba. Et enfin, nomination des mandataires des entreprises publiques. Ce sont là les thèmes que nous avons retenus pour vous dans cette tribune de la presse. Pour en parler, nous avons comme invité Déon Moulima du quotidien La Référence plus paraissant à Kinshasa, Gaston Mouchid, directeur de radio communautaire libre de Kolwezi au Katanga, et enfin Benoît Kambéré, directeur de publication de la revue RTVL Magazine. Bonsoir une fois de plus. Poursuite des travaux en atelier à la conférence sur la paix, la sécurité et le développement à Goma, au Nord Kivu, province où des affrontements ont été signalés le jeudi dernier entre FARDC et le SANDP de Laurent Kunda. Le point dans cet entretien de Mimi Ngumba et June Galard.
Jungala, cette conférence traite, nous le savons, de la paix dans les deux Kivu, mais il y a eu affrontement hier entre FRDC et des troupes du CNDP de Laurent Kunda à Kashuga, et il y a déjà des centaines de personnes qui sont en train de fuir. Est-ce qu'on fait allusion à cette actualité et à la conférence?
Bon, il s'agit là d'un élément factuel qui n'était pas, en tout cas à l'ordre du jour, des travaux en atelier qui se poursuivent en ce moment. Toutefois, certains conférenciers que nous avons rencontrés ce vendredi matin paraissaient déjà plus ou moins informés de cette situation de nouveaux déplacements des populations dans les secteurs de Kashuga et de Nyanzale notamment. Certains parmi eux estiment même que c'est l'une des conséquences du fait que la conférence se tient alors qu'aucun cessez-le-feu n'a été décrété entre les deux gérants. D'autres vont même jusqu'à dire que même les résolutions qui pourraient être prises ou qui pourraient sortir de la conférence risquent de ne pas donner de bons fruits s'il n'y a pas un minimum de bonne volonté de la part des communautés ethniques et des groupes armés surtout. Ils espèrent toutefois, les personnes que nous avons rencontrées, qu'à l'issue de la conférence, l'acte de paix ou le pacte de paix, c'est l'expression utilisée, le pacte de paix qui pourrait être signé entre les différentes communautés ethniques, donc pourrait placer les différents groupes armés devant leurs responsabilités et aider par conséquent à mettre fin aux affrontements qui sont aujourd'hui à la base des déplacements des populations dans les secteurs de Nyanzale et de Kashuga.
Merci beaucoup, Julien Gala.
Merci.
Déon Moulima, je rappelle que vous êtes du quotidien La Référence Plus qui paraît à Kinshasa. Des affrontements au moment où la conférence poursuit ses travaux en atelier. Quelle est votre analyse? Quelle analyse justement vous pouvez faire de cette situation?
Ceci explique le pessimisme qu'affichent certains compatriotes vis-à-vis de cette conférence. Il y a votre correspondant de Goma qui vient de dire que on n'a pas décrété un cessez-le-feu avant la conférence. Mais à ce que je sache, il avait été décidé par la FRDC que la FRDC arrêtait tous les mouvements militaires. Bon, dire que de bonnes choses pourront sortir de cette conférence, moi je me dis, comme je l'avais dit l'autre fois, je suis pessimiste et ces affrontements me donnent raison. Et il appartient à ceux qui sont à Goma, aux conférenciers, de mettre tout le monde, de faire revenir tout le monde à la raison pour qu'une fois pour toutes, la région du Kivu puisse retrouver la paix pour son développement.
Merci Déon Moulima. Gaston Moussid, vous êtes directeur de radio communautaire libre de Kolwezi. Quelle réaction avez-vous par rapport à ce qui se passe dans cette partie de la RDC?
C'est quand même triste. Parce que cette conférence vise la paix et le développement des deux Kivus. Les Congolais, en principe, doivent se mettre à l'esprit que quand il y a des affrontements, quand il y a des guerres, c'est les Congolais qui perdent leur vie. Ce n'est pas les gens qui soutiennent les factions, les forces armées, qui soutiennent tel groupe ou tel groupe militaire qui perdent, parce que la guerre s'effectue en RD Congo. Et je n'avais qu'à constater le bilan qu'a donné Ocha. C'est un bilan qui vraiment doit interpeller tout le monde. La guerre a causé pas mal de dégâts dans les deux provinces. Rien que l'année passée, pour plus de 300 000 déplacés de guerre ont été enregistrés au sud-Kivu. Et au nord Kivu, il y en a plus de 800 000 déplacés. Et les gens qui sont morts, c'est plusieurs personnes qui sont décédées. Mais est-ce que la conférence qu'on a convoquée, ce n'est pas un cadre de concertation pour que chacun puisse poser ce qu'il a comme préoccupation? Moi, je crois que la guerre doit finir. Il faudra que, au cours de cette conférence, les gens signent des actes sérieux capables de maintenir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que sinon, on va dire, c'est elle qui a commencé, c'est elle d'autre qui a commencé, mais on n'en finira jamais de tuer nos confrères.
Benoît Cambéret, vous êtes directeur de publication de la revue RTVL Magazine. Je signale que vous venez fraîchement de Goma. Quelle analyse faites-vous de cette situation, vous qui venez de là?
Ben, écoutez, c'est tout à fait dommage et à l'ouverture de ces travaux, nous avons eu l'occasion de poser la question à M. René Abandi le premier jour sur cette situation justement de cesser le feu. À la question que les confrères et nous avons posée à M. René Abandi, qui est le porte-parole du CNDP à cette conférence, il avait fait déjà remarquer ce fait par le fait que eux avaient unilatéralement, et il a souligné unilatéralement, décrété un cessez-le-feu. On a dit que c'était assez dommage que ce soit un cessez-le-feu seulement unilatéral. Alors, nous lui poserons la question de savoir pourquoi, dans l'autre cas, on a dit qu'il ne pouvait pas parler au nom du gouvernement ou des FARDC, il parlait au nom du CNDP depuis un moment. Effectivement, de Goma, on a eu pas mal de sons de cloche, parce que du côté des forces armées congolaises, personne n'accepte que l'initiative est partie de quelque part, parce que eux aussi, c'est vrai, il n'y a pas eu une déclaration de cesser le feu solennel, mais ils se disent, et ça on l'a remarqué lors des déclarations des groupes armés, il y a tellement. Et ceux qui disent que les différents groupes Maï-Maï sont une nébuleuse ont quelque peu raison, parce que là, on risque de ne pas savoir d'où est venue cette perturbation. Parce qu'on a entendu lors des déclarations de ces différents groupes Maï-Maï, hélas, nombreux, et qui se sont présentés, hélas, dans une cacophonie indescriptible, ça peut partir de là et gâcher cette conférence, c'est vrai. Les gens n'attendent pas beaucoup de ça. Déjà, la population à Goma est sceptique. Déjà, certains confrères, on l'avait dit lors un peu des travaux qui démarraient au ralenti, certains confrères ont dit que la conférence allait accoucher d'une souris ou de deux souris. Il y en a même qui ont dit que la conférence pouvait accoucher du vent. C'est-à-dire qu'on disait que...
Une vision purement pessimiste, quand même, Benoît Cambéret.
Hélas, les gens qui sont sur le terrain, on constate que déjà que ces affrontements commencent maintenant là, ça n'augure pas de quelque chose de bon et de durable. Surtout que le politique congolais, malheureusement, et cela on l'a vu dans toutes les conférences, on l'a vu à Saint-Titi, on l'a vu les accords de Lusaka, le politique congolais, malheureusement, ne respecte pas sa parole, ne respecte pas sa signature.
Gaston Moussid, est-ce que par rapport à ces affrontements, pensez-vous que la conférence ne peut pas aboutir, comme le pensent certains confrères que nous qualifions quand même d'un peu pessimistes?
Moi, je continue à croire que la conférence, c'est tout l'espoir de la population de la République démocratique du Congo. Parce que on ne peut pas tout régler par la guerre. On a donné la chance à tout un chacun d'exprimer sa voix. C'est en fait une occasion pour ces belligérants, c'est une occasion pour ces fractions, c'est une occasion pour les Maï-Maï, une occasion pour les gouvernements de se faire entendre. Mais si chacun de protagonistes ne considère pas qu'une occasion en or est mise à Goma pour organiser, développer le pays, moi je crois que ça va être dommage, parce que après cette conférence, si cette conférence ne peut pas réussir à mettre d'accord les gens qui se battent à l'Est, mais qu'est-ce qu'il faudra encore faire? Parce qu'on a fait les armes, finalement c'est le dialogue, et est-ce qu'il y aura d'autres solutions? Moi je crois qu'ils ont intérêt à signer des documents et à respecter ces engagements, parce qu'il en va de la force et même du développement de la Troisième République.
Déo Moulima, est-ce que toutes les questions de fond seront abordées pendant ce temps qui reste, parce que vous connaissez avec nous que la conférence, en principe, doit se clôturer le lundi prochain?
Je ne pense pas que toutes les questions de fond seront abordées. D'abord, il y a le fait là du nombre des gens qui ont été validés à cette conférence. Il fallait prendre un nombre réduit de conférenciers pour que tous les problèmes soient cernés. Il y a notre ami qui vient de Goma qui nous racontait tout à l'heure là que pour les Pareco, qui avait juste 15 minutes, mais il a fallu 2 heures de temps pour qu'il termine son discours. Tout ça, c'est malheureux. C'est pour vous dire que toutes les questions de fond ne seront pas abordées. On peut même accorder encore toute une semaine à cette conférence-là, mais on ne finira jamais à aborder toutes les questions de fond. Et je constate même, à écouter les discours qui ont été prononcés là-bas, que presque tout le monde n'a pas touché le fond du vrai problème.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Les gens sont restés superficiels, les gens sont restés sur des réactions épidermiques, des déclarations épidermiques.
Allez par un fait, un exemple pour que nous puissions essayer un peu de comprendre et de faire comprendre
également. Je prends l'exemple de Mai Mai du site Kivu. Dans leur discours, il avait été dit que si on procédait au découpage de Minembwe, par exemple, comme territoire, ça sera ouvrir la voie royale à faire une guerre comme la Palestine et Israël. Ça, c'est déjà une déclaration qui fait peur au dos. Ça dénote du sentiment qui anime les gens qui ont fait ces discours-là et toute la communauté qui est représentée par ces gens-là. C'est la preuve vraiment que les questions de fond, moi je pense, n'ont pas été abordées réellement et franchement.
Benoît Tambéré, vous qui venez de là, nous avons quand même suivi tous l'évolution des travaux. On a l'impression de voir que tous les groupes armés, toutes les personnes qui sont à la conférence ont quand même une certaine convergence, c'est-à-dire comment amener la paix. Ils sont tous prêts à faire la paix, mais comment y arriver finalement? Je ne vous demande pas de vous substituer à la place des 6 ans, mais qu'est-ce qu'il faut pour que tout aille de mieux? Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin de la conférence, la population va ressentir les effets de cette conférence par rapport aux résolutions qui seront prises?
C'est le souhait de tout le monde. Parce que l'unanimité, je ne vais pas revenir sur ce que Déo a dit, effectivement, au début, on a senti un certain flottement à cause du folklore que certaines communautés venaient avec des problèmes particuliers. À titre d'exemple, telle communauté venait pour défendre les intérêts d'un chef de collectivité, telle autre communauté venait pour revendiquer une place, des places de conseiller dans les cabinets du gouverneur. Moi, je pense que c'était des menus faits, c'était pas ça. Mais seulement, ce que j'ai constaté, et l'option militaire, j'allais dire l'option militariste, a montré ses limites. Et là, je crois que tout le monde est d'accord. Il faut maintenant. Bon, c'est vrai, le temps va faire défaut peut-être, mais en faisant un forcing. Surtout, et là, je pense que le comité des sages devrait vraiment s'investir pour qu'on en arrive à quelque chose de durable. Mais encore une fois, ce que nous craignons, c'est tout simplement cette pratique des politiques congolais qui ne respectent pas leur parole, cette pratique des politiques congolais qui ne respectent pas leur signature. Pourtant, la population est suspendue, mais vraiment suspendue à ces travaux pour que enfin la paix, enfin la sécurité, enfin le développement. Mais monsieur tout à l'heure a parlé de déplacés. Il y a près d'un million de déplacés. Et maintenant, avec ce qui vient de se passer à Kashuga et à Nyanzale, il y en aura davantage. Est-ce que les politiques congolais ne peuvent pas taire leur ambition égoïste pour une fois, seulement une fois, penser à ces pauvres populations qui, d'ailleurs, se demandent pourquoi ils sont réduits à se déplacer dans leur pays? Ces gens ont voté, ces gens ont élu pour avoir la paix. Et maintenant que, après avoir fait leur boulot, disent-ils, et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent errer. Ils ne vont pas dans leur champ, ils ne vont pas dans leur élevage, leurs enfants ne vont pas à l'école, et ça ne meut pas le politique congolais. C'est assez malheureux. Mais tout le monde est suspendu, il faudrait que la paix revienne.
Gaston Moussid, comment finalement arriver à faire confiance aux politiques congolais et pour que finalement la population du Nord et du Sud Kivu puisse retrouver la paix? Comment y arriver?
Roger, moi je trouve qu'il n'y a pas de solution miracle. la solution pour mettre fin à cette guerre, il suffit seulement de placer les intérêts supérieurs de la nation devant et nos propres intérêts derrière. Parce que finalement, ce qui tue les politiques congolais, c'est cette manière-là de penser qu'on est au-dessus de tout, qu'on protège d'abord ses intérêts et les intérêts communautaires, on les met derrière. Mes confrères l'ont dit tout à fait tout à l'heure. Comment expliquez-vous que parce que vous voulez obtenir ceci ou cela, que les vies humaines soient comme ça tuées, que des familles vivent en brousse, et il faut voir, nous, à Colégie, on a vécu la guerre. Donc, je connais ce que c'est la guerre, je connais quelles sont les conséquences de la guerre. C'est la misère. La guerre ne tue pas seulement les riches, et ça tue aussi les pauvres, ça tue aussi ceux qui ont des moyens, ça réduit toute une vie à néant. Donc, la guerre a de... Moi, je trouve que la guerre a des conséquences néfastes. Les politiciens, au nom de la paix, au nom de la souffrance des Congolais de l'Est, doivent mettre de côté leur haine, leur intérêt privé. Privilégier le dialogue qui est déjà sur table et définir une bonne politique, signer et respecter les signatures parce que le peuple en a marre. Le peuple qui attend des résolutions de ce dialogue ne devra pas encourager ceux qui vont sortir en disant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi parce que finalement tout le Congo, ce n'est pas seulement l'Est, c'est tout le Congo qui se sent malade parce que l'Est est en difficulté. La solution, c'est de respecter les textes et de mettre avant les intérêts supérieurs de la nation.
Merci, Gaston. Aussi, rapidement, Déon Moulima.
Je voudrais d'abord revenir rapidement ici à un fait. Comment est-ce qu'on peut donner la chance à cette conférence-là de réussir et de porter des résultats durables? Moi, je pense qu'il faut que toutes les communautés de Kivu se pardonnent mutuellement. Mais ces pardons-là ne signifient pas aussi l'impunité. Il faut qu'on... Les communautés se pardonnent mutuellement, mais il faut qu'au niveau national, que le gouvernement puisse appliquer la justice.
Certains, pour ne pas vous couper la parole, certains groupes armés ont demandé même la suspension des poursuites.
Et c'est ce qui est dommage, parce que si on continue à accorder des amnisties tout le temps, mais finalement n'importe qui peut créer sa petite rébellion quelque part dans un coin du pays, et puis lui aussi demande des négociations directes. Moi, je crois que sur ce plan-là, le gouvernement doit être intransigeant. Et toutes les communautés du Kivu doivent savoir que pour que le pardon puisse être accepté, il faut que les gens qui ont commis des exactions soient punis. Et ça pourra donner une leçon à d'autres qui voudraient créer encore des problèmes au pays.
Le 16 janvier dernier, la République démocratique du Congo a commémoré le 7e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Des cultes d'action de grâce se sont tenus à travers le pays. À Kinshasa, une messe a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. À Kindu, par exemple, un culte œcuménique a été célébré par les représentants des trois confessions religieuses. Le 17 janvier, on a également commémorer le 47e anniversaire depuis que Emery Patrice Lumumba a été lui également tué. Un dépôt de fleurs au monument du héros national a eu lieu hier jeudi à Kinshasa, mais les fils Lumumba estiment que le pays continue à sombrer malgré les dernières élections. Recul démocratique, léthargie et immobilisme, c'est en ce sens que François Lumumba voit le gouvernement de la 3e République. Quant à son frère aîné, Roland Lumumba, le gouvernement actuel doit honorer son contrat avec le peuple. S'agissant de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les défenseurs des condamnés, l'un des avocats, Eléy Lofele, vous l'entendrez, demandent aux députés de prendre les devants dans cette affaire et il exige également la réouverture du procès. Il est au micro de Georges Kamouzoua.
Mais les députés doivent se saisir du dossier, ça veut dire qu'ils doivent constater que moi, le chef de l'État, une infraction politique, et s'ils ne veulent pas, nous leur demandons la réouverture du procès, puisqu'on avait dit à la fin du procès que le procès n'était pas terminé. S'ils veulent réouvrir le procès, et comme ça, avec le nouveau juge militaire, nous allons en débattre et on va les acquitter. La situation politique du pays a évolué, et comme les esprits se sont un peu apaisés, nous verrons la vérité. Mais nous voulons que les députés prennent le devant, qu'ils comprennent que ce problème-là, il y a des compatriotes qui sont en prison pour rien. Vous pensez que quand vous laissez certains compatriotes arbitrairement en prison, vous leur donnez un grand titre d'être assassin du chef de l'État sans l'avoir prouvé. Vous croyez que ça contribue à la réconciliation nationale? Il faut que ces gens-là sortent. Parce que ça ne sert à rien. On ne peut pas bâtir une société dans les rancunes inutiles.
De son côté, Aubin Minakou, député national AMP, affirme le contraire. Pour lui, le procès pénal est clos, les condamnés purgent leur peine. L'honorable Aubin Minakou était l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais. On l'écoute.
Sur le plan juridique, il y a eu un procès. Le procès pénal a été clos. Au terme de ce procès, nous avons connu des condamnations pénales et les prévenus sont tous aujourd'hui, en tant que condamnés, en train de purger leur peine. Et dans un état de droit, pour revoir un procès, il y a des mécanismes constitutionnels, il y a des mécanismes légaux consacrés par les codes de procédure, en l'occurrence la procédure pénale, que nous devons respecter. Donc il n'appartient pas à un quidam dans la rue, à n'importe qui, de se réveiller un bon matin et dire non, on doit réouvrir le procès. Mais sur base de quelles dispositions? Et lorsque j'entends dire que ce procès n'est pas terminé, oui, je suis en train de me poser des questions sur le plan juridique, parce qu'il y a eu condamnation pénale, c'est-à-dire à la servitude pénale principale, pour la plupart des inculpés. Il y a eu même des inculpés qui ont été libérés, faute de preuves. Aujourd'hui, comment dire que ce procès n'est pas terminé? Même si il s'avérait que le ministère public ait dit qu'il allait poursuivre les enquêtes.
Toujours dans ce même chapitre, le député national Jean-Claude Mbemba, intervenant sur nos antennes dans notre magazine politique Dialogue entre Congolais, lui a trouvé la demande de la défense tout à fait logique. Il pense qu'il ne faut pas compter cependant sur la justice congolaise. Gaston Moucide, vous avez suivi les uns et les autres par rapport à cette question. 7 ans après l'assassinat de Mzé Laurent Désiré Kabila, président de notre pays, la défense demande la réouverture du procès. Qu'en pensez-vous?
Moi, je crois que c'est aussi l'avis de beaucoup de compatriotes. Le procès Kabila n'a pas été clair. Il est vrai que des gens ont été condamnés, mais il est aussi vrai que les condamnations n'ont pas été vraiment à la hauteur du travail de la justice.
C'est-à-dire?
Moi, je trouve. C'est-à-dire qu'on a vu des grosses légumes circuler alors qu'on a pris les tout petits qui n'avaient pas beaucoup de moyens de défense. Qui ne sait pas qu'il y a énormément de gens suspectés dans l'assassinat qui circulent, qui ont même des postes au gouvernement, certains vivent à l'étranger dans les Anges. Alors que tous ces gens qui sont là, c'est parfois des gens qui ne pouvaient pas bien se défendre. Le procès a été fait dans un contexte tel que on était dans une situation compliquée. Le président lui-même, il était fils de celui qui a été tué. Maintenant que nous avons fait les élections, on a voté, nous avons un gouvernement, nous avons des élus, bon, je trouve que le moment est plus qu'indiqué de rouvrir ce débat, ce procès, de manière à ce que l'on puisse juger sans beaucoup de parti pris. Mais entre temps, il faut noter que si il est démontré que tel est coupable, la démocratie c'est aussi le respect des lois et des textes. Il ne faudrait pas que quand ça tombe sur vous, que vous soyez en train de dire qu'il faut amnistier, amnistier, parce que ce qui tue ce pays, c'est aussi l'impunité. On se dit qu'on peut faire ceci, on peut tuer, on peut faire ça, sans que l'on vous poursuive, et on ne va pas évoluer si on se dit démocratique. Moi, je crois que il faut réouvrir le procès et établir des vraies responsabilités, que le coupable soit puni, parce que c'était un chef de l'État, c'était pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un pour qui la population avait beaucoup d'estime pour sa conduite et ses idéologies.
Merci Gaston Moucide. Déo Moulima, une réaction?
Bon, d'abord, je salue la mémoire de ces deux personnalités importantes de notre pays. Moi, je reconnais que Patrice Lumumba, que je n'ai pas connu physiquement, je n'étais même pas encore un projet quand il avait été assassiné. Mais de par l'histoire que nous avons lue sur lui, il fut un grand homme et je salue sa mémoire. Tout comme pour Mzé Laurent Désiré Kabila aussi, qui fut aussi un grand nationaliste. C'est dommage que en Afrique, nous banalisons les choses. Bon, il faut reconnaître que on ne saura jamais la vérité, et sur la mort de Lumumba, et sur la mort de Kabila.
Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Léo?
Ce sont des morts politiques. Ce sont des morts politiques, et on laissera les gens seulement discourir, sans qu'on leur dise réellement la vérité. Pour preuve, le procès Mzé Kabila a eu lieu ici, mais ce procès n'avait pas débouché sur une vérité quelconque. Il y a des gens qui sont en prison.
Il y a eu des condamnés, il y a un verdict final, Déo.
Oui, d'accord, d'accord. Mais des condamnations qui étaient parfois sur base des faits qui n'ont pas été prouvés jusqu'ici. Nous avions suivi ces procès-là de bout en bout. Et pour la plupart des condamnés, ce sont pour des motifs qui n'ont jamais été prouvés. Par contre, des gens qui étaient avec le chef de l'État dans son bureau quand il avait été assassiné, certaines de ces personnes-là sont libres, comme venait de dire Gaston tout à l'heure ici. C'est-à-dire que c'est une mort politique, que ce soit pour Lumumba et pour Kabila aussi. Vraiment, moi, je n'attends aucune vérité de tout ce qu'on pourra entreprendre, même si on rouvrait.
Donc vous voulez dire que même si on rouvrait le procès,
même si on rouvrait le procès, ça sera encore toujours une mascarade. Je l'ai dit haut et fort.
Alors Benoît Cambéré, votre analyse, quelles peuvent être les conséquences si ce procès était ouvert?
Mais, d'abord, je pense qu'il faille. Il y a eu au cours de l'histoire du monde des erreurs judiciaires. Ça peut arriver. Moi, je me demande pourquoi on s'acharne sur des lampistes, excusez-moi l'expression, des menus frétins. Je vais de temps en temps à la prison de Makala, je rencontre ces jeunes gens qui sont là sans savoir pourquoi ils sont là, parce que tel est passé chez lui, parce que ceci, et comme l'a dit Déo, comme l'a dit Gaston, Guy Roger, il suffit de se demander qui aurait pu être commanditaire de cet assassinat. On peut revenir aussi sur Patrice Emery Lumumba. C'est dommage que je vais revenir sur la déclaration de ces deux enfants.
Oui, nous avons regardé.
Mais je me dis que c'est vrai, on peut avoir des rancœurs, c'est vrai, on peut avoir des rancunes, mais qu'on fasse justice. Qu'on fasse justice aux gens, parce qu'il y a eu cesse de commandes. On ne peut pas dire que ce sont les petits menus frétins qu'on voit, qui sont condamnés aussi, qui sont à la prison de Makala, qui croupissent depuis 7 ans, aujourd'hui à la prison de Makala, qui sont à la base de l'assassinat d'un grand homme comme Laurent Désiré.
Et Edi Capel, qui était le commandant, le chef d'état-major de la brigade rapprochée du chef de l'État, vous savez qu'il est emprisonné.
Ben oui, je sais qu'il est emprisonné. Je ne veux pas revenir ici sur le récent ouvrage de Moïse Kongolo, qui n'était pas non plus n'importe qui à l'époque de Laurent Désiré Kabila, qui a dit que il était avec Edi Capel, et pour qu'il entende que, comme tu dis, il y a des gros poissons, il n'y a pas que les handicapés, il y a les gens de la sécurité. En quoi ils sont l'État, garçon l'État, il y a l'autre, en quoi ils ont trempé dans la mort. On leur reproche, par exemple, le fait de n'avoir pas fait leur travail.
Selon vous, il faut rouvrir le procès.
Il faut rouvrir le procès pour réparer les erreurs judiciaires, pour prendre les vrais coupables. Et ils existent, ces vrais coupables.
Merci Benoît Cambéré. Rapidement, la réaction des fils Lumumba qui ont estimé que rien n'a changé, il y a recul démocratique. Gaston Moussid, comment vous réagissez par rapport à cette lecture des fils Lumumba?
C'est-à-dire Romain Lumumba et François, c'est tout à fait ce qui est vrai. C'est après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les gens ils se plaisent de mettre des rituels, de mettre l'action des grâces, c'est tout à fait bien. Mais il faut aussi honorer la mémoire de ces héros, Lumumba et le Désiré Kabila. Eux, ils ont été caractérisés par le patriotisme, la souveraineté, la liberté de leur pays. Ils ont été tués pour ça, ils ont perdu leur vie pour que le Congo devienne un et indivisible. Mmh. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne constate pas? Est-ce que c'est un secret que de dire qu'on n'a pas vu beaucoup de choses évoluer? Non, sur tous les plans. Il y a eu les élections qui sont déroulées, bon, c'est une jeune démocratie, mais il faut quand même un peu plus d'efforts pour que la population constate et voie que non, il y a des évolutions. La corruption, elle est toujours là, elle nous habite, elle nous envahit, elle vit avec nous, l'injustice est là, et le clientélisme, non, mais on n'a pas vu beaucoup de choses changer. Honorer la mémoire de ces héros, à mon avis, Guy Roger, c'est d'être un peu plus de patriotes, comme ils ont fait. ils ont donné le sacrifice suprême, mais il faut vraiment les honorer que de dire seulement qu'ils étaient héros et ne rien faire du tout.
Merci. Déon Moulima, depuis 1960, on n'a quand même jamais eu des institutions élues au suffrage universel, allais-je dire. Aujourd'hui, quand même, la RDC a avancé et quand il y a une vision qui dit que les fils de Lumumba qui disent qu'il y a immobilisme et recul démocratique, vous ne pensez pas que c'est trop fort?
Non, ce n'est pas fort, c'est tout à fait vrai. Nous le constatons même au sein de l'Assemblée nationale. Au point où moi, je me demande si il y a une majorité, une opposition là-bas. Si vous suivez les débats, vous avez l'impression que tous sont soit de la majorité, soit de l'opposition. Il n'y a pas vraiment de démocratie. Et c'est comme venait de dire notre confrère Gaston, pour honorer la mémoire et de Lumumba et de Kabila, c'est d'appliquer les principes démocratiques d'une manière réelle au pays. Mais je voudrais revenir rapidement pour ce que j'ai dit bien avant là, pour dire que c'était des assassinats politiques, que ce soit celui de Lumumba et de Musée. Vous vous rappelez, parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, pendant que nous étions en conférence nationale souveraine ici, il y a une personnalité, que son âme repose en paix, qui voulait dire tout ce qu'il savait sur cet assassinat-là.
Vous pouvez
malheureusement,
citer Mounongo.
C'est Godefroy Mounongo. Malheureusement, à quelques minutes du moment où il devait prendre la parole, l'homme est mort.
Merci.
Subitement.
Merci.
C'est pour vous dire que même si on rouvrait le procès, il sera difficile de connaître la vérité.
Merci. Rapidement, Benoît, nous tendons vers la fin de l'émission, mais nous allons aborder le troisième thème. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que les amis venaient de dire?
Je pense que c'est d'autant plus vrai que j'ai comme l'impression, j'ai eu l'occasion de quitter le pays et de voir comment Patrice Emery Lumumba est honoré en dehors du pays. C'est facile de venir chaque fois à chaque commémoration, et malheureusement dans ce pays, on a vu tous les régimes récupérer le nom de Lumumba sans rien de derrière. Et maintenant, c'est d'autant plus grave que c'est un Lumumbiste qui est à la tête du gouvernement actuel. C'est à n'y rien comprendre que les enfants de Lumumba en arrivent à dire ça. Que l'épouse de Lumumba, je l'ai suivi encore hier à la télévision, qui se plaint du fait qu'on ne s'occupe même pas de lui. J'ai vu le véhicule de Lumumba que Lumumba utilisait dans le garage sur des pierres. Ça m'a fait, je me dis, non, il y a pourtant un Lumumbiste aujourd'hui qui est au pouvoir et qui ne fout rien. C'est d'autant plus grave qu'on se demande s'il y a encore des vrais Lumumbistes à Kinshasa. On se demande s'il y a encore des vrais Kabilistes à Kinshasa, parce que vraiment, et la mémoire de Lumumba et la mémoire de Kabila n'est pas honorée par ceux qui se disent héritiers spirituels de Lumumba et de Kabila.
Le samedi dernier, le chef de l'État a nommé les mandataires des entreprises publiques du portefeuille par ordonnance présidentielle. Ces nominations portent d'une part à des postes opérationnels les mandataires de 26 entreprises publiques ayant statisté au concours organisé par le COPIREP, et d'autre part à des postes passifs de conseil d'administration des personnes choisies de manière discrétionnaire. Cette nomination des mandataires est l'aboutissement d'un long processus. Radio Okapi a recueilli plusieurs réactions par rapport à ces nominations. Certains membres de l'opposition estiment que cela ne reflète pas les résultats du test et la représentativité des provinces n'est pas respectée. Jean-Lucien Boussa, député national, MLC.
De prime abord, on se rend compte que le pays n'est pas représenté de manière équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a une concentration des nominés de certaines provinces par rapport à d'autres provinces où on note malheureusement un déséquilibre criant. Cependant, j'espère aussi que les personnes qui sont nommées mandataires ici là répondent à des critères de compétences. On a fait faire un test pour nommer les mandataires publics, mais on se rend compte que ce n'est pas le reflet du résultat du test qui a été fait des mandataires publics qui a été publié. C'est des personnes qu'on a repris, membres de partis politiques, mais jamais, pour la plupart d'entre eux, participé au test.
La majorité pense que ces nominations expriment une grande ouverture du chef de l'État. Écoutons le député Ramadan Issadari du PPRD.
La première impression que nous pouvons avoir, madame, c'est qu'il y a eu une grande ouverture de la part du président de la République. Il a tenu compte de toutes les formations politiques dans l'ensemble, et les plus importantes, parce que je vois même les gens de l'opposition sont représentés dans cette mise en place des mandataires. Il y a les gens du SPD qui ont même un ADG à l'OGFM. Il y a aussi quelques membres du MLC qui sont dans ces nominations. Donc, dans l'ensemble, nous avons compris que le chef joue donc à l'apaisement, à la concorde. Il veut que tout le monde participe à la gestion de l'entreprise de l'État, surtout que pour les postes les plus importants d'entreprise, c'est-à-dire l'ADG, l'ADF et l'ADT, ces postes étaient soumis au concours. Ce qu'on a jamais vu à travers le monde, partout d'ailleurs, celui qui gagne les élections, celui qui nomme ses mandataires avec sa politique. Ici, nous voyons l'ouverture qui a été faite par le chef de l'État, même si ce n'était pas franchement de la volonté de sa famille politique, mais il l'a fait, la mort dans l'âme, parce qu'il est le chef de l'État de tout le monde.
Gaston Mouchid, vous êtes directeur de Radio Communautaire Libre de Colvézi. Quelle réaction avez-vous par rapport à ces différents noms?
Les 26 mandataires ont été nommés par le président de la République. Et si le président a tenu compte de la compétence, coup de chapeau, parce que les Congolais veulent y trouver leur compte. On ne va quand même pas chercher l'équilibre à tout prix, comme l'a dit les leaders de MLC. Il est vrai que quand, pour des raisons de compétences, on ne va pas toutefois qu'il faudra nommer des gens, essayer de prendre dans toutes les provinces pour équilibrer nombre par nombre. Finalement, c'est un problème de compétences. Mais si ces mandataires ont été nommés pour satisfaire telle ou telle autre tendance politique, et si la nomination traduit une tendance à vouloir satisfaire des personnes et en trouver des places au gouvernement, mais là, ça va créer un problème de compétences. La République démocratique du Congo a trop marqué les pas, un peu comme l'a dit Laurent, comme l'a dit les confrères tout à l'heure. Nous devons partir, nous devons donc avancer, avancer, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je crois que c'est la meilleure façon de développer ce pays.
Benoît Cambéré, nous avons déjà les 26 animateurs des entreprises publiques. Quel horizon pour la renaissance même de ces entreprises?
Ben écoutez, j'ai souri tout à l'heure quand le député de l'AMP a dit que c'était une ouverture et parlait même du RCD qui était dans l'opposition. J'ai un peu souri, mais enfin, ne nous voilons pas la face. En parcourant la liste de ces mandataires, on voit que tous les ministres qui ont été, j'allais dire, dégommés ou débarqués du gouvernement, je rectifie, les ministres qui ont quitté le gouvernement pour une raison ou pour une autre se retrouvent aujourd'hui PCA. Il n'y a qu'un seul ministre qui n'a pas été repris, c'est le ministre Henri Cousseyo des Transports pour des raisons que tout le monde comprend. Mais tous les autres qui ont quitté le gouvernement pour une raison ou une autre se retrouvent président du conseil d'administration.
Benoît, est-ce qu'un président du conseil d'administration, c'est un mandataire actif ou passif?
À
ma connaissance, il est passif.
Tout à fait d'accord, mais s'il y a aussi tous les administrateurs. C'est tous les députés de l'AMP qu'on a remplis comme administrateurs à tous les postes. Est-ce qu'il manque des compétences dans ce pays pour être administrateur? Les gens, j'étais à Goma quand on a publié cette liste, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on veut d'avant? Qu'est-ce qu'on veut encore? Ces gens, ils sont, d'après les opinions, très bien payés à l'Assemblée nationale. D'autres, qu'est-ce qu'ils veulent encore chercher dans les conseils d'administration? Qu'ils fassent leur boulot à l'Assemblée nationale très bien, qu'on donne la chance à d'autres Congolais. Et Dieu merci, il y a des compétences dans toutes les provinces, dans toutes les formations politiques où on pouvait donner du boulot aux Congolais. Il n'y a pas que les députés de l'AMP ou les députés de l'obédience du chef de l'État qui peuvent être des administrateurs dans des conseils d'administration ici. Et de grâce, qu'on ne dise pas qu'il y a eu ouverture, qu'il y a eu ceci, non. C'est des gens, on a l'impression que c'est le personnel politique qui a contribué à l'élection du chef de l'État qu'on reprend et pour récompenser les gens qui ont travaillé pour la campagne, quoi.
Merci Benoît Cambéré. Déon Moulima, est-ce que nous pouvons compter au redécollage de ces entreprises publiques de la RDC?
Bon, je ne peux pas juger d'emblée comme ça des gens que je n'ai pas encore vus à l'œuvre. Il faut à l'œuvre plutôt. Il faut leur donner la chance de travailler. Mais j'ai fait remarquer que, une fois encore, le pays n'a pas honoré la mémoire de Lumumba et de Kabila. Comment comprendre que sur les 300 mandataires publics, on ne compte qu'à peine 78 qui ont passé le test. Et tous les autres, comme on recourt toujours à cette formule-là de pouvoir discrétionnaire, pour nommer des gens, des politiciens. Ça n'enfonce pas le pays. Il y a des technocrates dans ces pays, dans ces mêmes entreprises-là. Pourquoi on n'est pas allé puiser parmi les technocrates qu'on retrouve dans ces mêmes entreprises-là? Mais on vient ici, on nous amène de PCA, de politiciens, des gens qui ont déjà un salaire assez alléchant, comme le disait tout à l'heure ici mon confrère, mais on les amène encore dans les entreprises. Ce n'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Il faut qu'on mette chacun, qu'on les laisse là où ils travaillent. Travailler pour le pays, ce n'est pas seulement être dans plusieurs structures à la fois. Quand on est député, il faut rester député. Il ne faut pas venir encore chercher à entrer dans un comité de gestion pour se remplir les poches. Nous connaissons les habitudes des politiques congolais. Voilà un acte qui n'honore pas le pays.
Gaston Mouchid, finalement, dans ces entreprises publiques, c'est un problème d'homme ou c'est un problème de système finalement?
C'est un problème de système, c'est toute une structure. On ne peut pas développer une entreprise, je ne peux pas construire un truc dans une structure où tout est mis en œuvre pour vous faire échouer. Moi, je crois qu'il devra être question de revoir la structure et tous ces gens, parce que il faut savoir que tel a été nommé pour tel objectif, mais si c'est pour préparer une campagne pour son parti, bientôt là, ce sera les élections locales, on va trouver de l'argent pour son parti, récupérer un peu ce qu'on a perdu, là, la population n'y trouvera rien. Donc il faudra que la structure réponde aux normes démocratiques, un peu comme a dit Guillaume Moulima et Benoît Tambéré tout à l'heure, nous devons honorer la mémoire de héros que nous avons fêtés. Honorer leur mémoire, c'est être des vrais patriotes, donc trouver, travailler pour le compte de la population. Honorer l'héritage que nous avons laissé et finalement développer le pays.
Benoît Tambéré, comment arriver à reformer ces entreprises?
C'est une question d'homme et une question de structure, malheureusement. Et dans notre pays, hélas, on a vu que on tourne en rond. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous risquons encore une fois de déplorer. Il y a eu le copyleb qui a été mis en place, à ce qu'il paraît, on a encore refait l'ordonnance qui nomme le copyleb pour la restructuration des entreprises. Je n'ai vu nulle part où on a restructuré des entreprises. Déo a tout à l'heure parlé des six maisons qui connaissent très bien ces entreprises, qui auraient pu de mettre aider ces entreprises à redécoller. On ne les a pas vues, c'est plutôt les politiques qui reviennent et en force. Quand les politiques viennent quelque part, je ne pense pas que ce soit pour leur technicité ou pour les beaux yeux des gens. Ils viennent pour ce qu'ils savent.
Mais vous avez quand même une vision optimiste de la chose.
Ben écoutez, touchons du bois, prions Dieu. Voilà,
merci. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette tribune de la presse. Je rappelle que nous avons reçu Déo Moulima du journal La Référence Plus paraissant à Kinshasa, Gaston Mouchid, directeur de Radio Communautaire Libre de Kolwezi au Katanga, Benoît Tambéré, directeur de publication de la revue RTVL Magazine. Merci à Nadine Koula qui était à la réalisation. Merci également à Héritier Sidiakala qui tenait la technique. Bonne suite de programme sur la Radio Okapi. Thank you.